Mille merci à Alita Basset d'avoir donné hier une prédication et puis aujourd'hui de nous donner une conférence sur ce dernier livre qu'elle nous propose, La source que je cherche. Alors, deux mots de présentation. Vous êtes philosophe d'abord, théologienne aussi, donc les deux vont bien ensemble, se conjuguent bien ensemble et ça, je trouve qu'effectivement, c'est déjà intéressant. Vous avez été pasteur pendant 17 ans à Genève. Professeur de théologie pratique, j'allais dire de théologie expérimentale presque, non? Donc c'est vrai que c'est intéressant de conjuguer effectivement cela à Lausanne et Neuchâtel. Mais aujourd'hui surtout, c'est, j'allais dire, deux métiers, c'est la formation à l'accompagnement spirituel des personnes, nous pourrons en toucher un mot. Aujourd'hui, je pense que c'est très important parce que souvent on nous demande d'avoir des accompagnants spirituels et on n'en trouve pas. Donc merci pour cette tâche aussi. Et puis écrivain de livres qui sont de véritables cadeaux. Franchement, par exemple, le pardon originel, aimer sans dévorer, oser la bienveillance. Et puis finalement, la source que je cherche, qui est en fait un de mes préférés, finalement. Qui est un de mes préférés, je ne sais pas, c'est un peu ce que j'essayais de dire dans l'article de réforme. Pourquoi est-ce que vous avez attendu pour dire cela? Parce que je trouve que c'est un des plus lumineux de vos bouquins. Et c'est vrai que ça peut éclairer les autres, ça va, j'allais dire, à la source. Effectivement, c'est peut-être le sujet des sujets. Alors, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, vous mettez énormément de vous-même dans ces livres, et je suppose, j'en ai pas parlé avec vous, que ces livres sont comme des accouchements, parce que c'est pas juste un travail intellectuel, théologien. Alors effectivement, on peut prendre de la distance dans la théologie, la philosophie, on peut parler facilement, d'une manière relativement détachée. Là, vous mettez beaucoup de vous-même, et donc je suppose que ça vous coûte énormément. Et nous, j'allais dire, comme des vases communicants, ça nous apporte énormément, parce que ça articule à la fois quelque chose de très personnel, qui nous touche aussi, mais aussi l'intelligence, et puis des points essentiels de la théologie, ça en propose une relecture. Et donc finalement, ces livres nous rejoignent par plusieurs bouts, par l'intelligence, par la réflexion, la théologie, la philosophie, mais aussi dans la spiritualité. Et ça propose, ça cherche, ça creuse une articulation entre les deux. Et puis aussi, ça fait aimer la vie, mais sans naïveté. Ça donne envie d'avoir des gestes. C'est pas simplement abstrait. Enfin bref, je trouve vos livres géniaux. Enfin, c'est pour ça qu'on vous a invité. Et voilà. Alors donc, d'abord, peut-être première question, puisque ce serait un peu comme un dialogue. Avant de vous passer la parole, un petit peu aussi, eh bien vous nous aidez très concrètement dans ce livre en essayant de reformuler les gros mots, les grands mots du patois théologique. Vous dites, et je crois que c'est effectivement vrai, que ces notions qui sont en fait des notions géniales, qui sont enracinées dans la théologie biblique, elles ont été empâtées comme peut-être parfois des sculptures, vous savez, qui ont été peintes et repeintes dans un vieil appartement, et donc du coup, on a du mal à reconnaître la figure. Et ça a été là, empâté sous des couches de religiosité, de superstition populaire, je ne sais pas, c'est peut-être un peu comme le téléphone arabe, dit-on, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec les Arabes, mais c'est ce qu'on dit. Et donc, par exemple, le mot « Dieu », est surchargé de sens et vous essayez de nous de recreuser ce mot en l'appelant la source. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, pourquoi ce mot, la source, pour parler de Dieu?
J'y vais. Alors d'abord, est-ce que ça va comme ça? Vous entendez très bien. Donc je vais répondre en m'adressant à vous, pas parce que je suis fâchée avec Marc Pernot, mais parce que si je lui réponds en me tournant la tête, ça va, vous n'allez pas entendre. Mais donc on a convenu de cela entre nous. Donc la source, parce que au fond, j'ai eu le point de départ de cette réflexion sur la quête de Dieu, c'est que, au fond, je mettais toujours des guillemets à Dieu parce que j'avais constaté que sous le mot Dieu, les gens mettaient tous quelque chose de différent et que, en fait, ça devenait un mot qui vraiment. On fait semblant qu'il y a un consensus, mais pas forcément. Et je me disais que si on utilisait des mots peut-être plus symboliques, et plus diversifié, on ferait plus, ça serait plus en rapport avec notre expérience personnelle. Et la source est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est une notion tout à fait biblique, pour désigner ce divin, ce plus grand que nous, cette source de vie, justement, cette origine de toute vie. Et j'avais l'impression qu'en utilisant des mots, justement, plus en lien avec ce qui nous fait vivre, nous, personnellement, ça nous permettrait de mieux communiquer sur, finalement, quelque chose qui nous est commun à tous, c'est cette soif, cette quête, cette soif, cette aspiration à une vie en abondance, à ce vivant, finalement, qui rend nos relations et notre vie de tous les jours beaucoup plus intense et beaucoup plus joyeuse et plus pleine.
Alors, c'est vrai que vous distinguez des fois Dieu avec un D majuscule.
Oui.
Et puis Dieu avec un D minuscule qui correspond à notre conception de Dieu. Et ça, je trouve que c'est bien éclairant parce que, par exemple, un athée dit « je ne crois pas en Dieu ».
De quel Dieu il parle ?
De quel Dieu il parle ? Il y a bien des chances que ni vous ni moi ne croyons en fait au Dieu auquel il ne croit pas finalement.
Absolument.
Donc c'est intéressant. Mais quand vous dites la source, c'est quoi ? C'est un Dieu avec un D minuscule ou c'est The Dieu avec un D majuscule ?
Alors j'ai utilisé le mot Dieu avec un D minuscule parce que c'était dans toute cette partie du livre où j'essaye de réfléchir sur les représentations que nous avons, ou les images que nous faisons de cette source de toute vie et qui sont des images énormément à notre image justement, enfin énormément projeté de nous-mêmes, c'est-à-dire le Dieu méchant, le Dieu sadique, le Dieu indifférent. Aujourd'hui, puisqu'on a bazardé le Dieu tout-puissant, qui a été un sacré Dieu avec un petit D, on parle beaucoup du Dieu impuissant, ce qui n'est pas forcément terrible non plus. Il y a toute une série de... Oui, le Dieu indifférent, je l'ai dit, je crois. Mmh. Et au fond, toutes ces représentations-là sont plus mortifères qu'autre chose, ou toxiques, vous disiez tout à l'heure, toxiques. C'est-à-dire que c'est des représentations que nous faisons de la divinité ou du divin et que nous projetons en quelque sorte sur quelqu'un qui est complètement mystérieux, qui nous dépasse complètement, qui est infiniment plus infini que toutes les représentations que nous pouvons avoir, et que la Bible elle-même appelle d'une certaine manière des idoles. Donc c'est Dieu petit D, pour moi c'est vraiment quelque chose d'idolâtrique dans le sens que ça prétend occuper la place de Dieu lui-même, du Dieu vivant. Ces représentations que nous avons finalement prennent toute la place et nous empêche de communiquer avec le vivant, grand V. Voilà, alors il me semble qu'il fallait faire cette oui. distinction entre le petit D et le grand D.
Oui, mais est-ce qu'on n'a pas besoin quand même, une fois qu'on a fait tomber peut-être nos idoles, nos petits dieux finalement, nos images de Dieu qu'on prend pour Dieu, une fois qu'on les a fait tomber, est-ce qu'on n'a pas besoin de revenir ensuite à des formulations théologiques pour discuter entre nous, pour essayer de réfléchir aussi notre expérience, peut-être faire le tri entre... Parce que des fois, on entend Dieu parler en nous, et puis c'était un gargouillement d'estomac, en fait, on a pris pour Dieu. Et donc, en discutant, peut-être avec d'autres, en formulant, en interprétant, est-ce qu'il n'y a pas besoin de retourner après à des formulations ?
Alors... Moi, les formulations générales, j'en ai un peu soupé parce que j'en ai été abreuvée pendant toutes mes études de philosophie, qui était la philosophie en Occident était extrêmement imprégnée de théologie. Et après, dans la continuité, ça a été, j'en ai été abreuvée dans mes études de théologie. Beaucoup de discours sur Dieu, justement. Beaucoup, beaucoup. Et c'est fou ce que les gens étaient informés sur qui était Dieu,
ah oui,
finalement. Et puis, je pense que là, aujourd'hui, là où nous en sommes aujourd'hui, et je sens ça, et je l'entends énormément parmi nos contemporains, en fait, on est plus dans une attitude de quête, de recherche, plutôt que d'affirmation, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y avait juste un indice de cela, c'est qu'il y a quelques années, il y a un bon nombre d'années même, les éditions Albin Michel avaient publié toute une série de livres par des auteurs très connus, et ça s'appelait « Ce que je crois ». Vous vous souvenez peut-être. Il y en a eu toute une série comme ça. Et justement, l'éditeur Jean Moutapa, qui est mon éditeur chez Albin Michel actuellement, il m'avait dit il y a quelques années, « Aujourd'hui, si on devait refaire une série, moi je l'intitulerais « Ce que je cherche ». Et ça, on peut dire, ça m'avait vraiment mise en route. C'est depuis lors que ça m'a travaillé cette histoire de quête. Au fond, c'était quoi la question ? J'ai de nouveau oublié.
C'est ce que, effectivement, c'est intéressant d'être dans une...
Ah oui, les formulations théologiques.
Ouais, de revenir, oui.
C'est les formulations théologiques.
C'est pas intéressant d'y revenir après.
De revenir après. C'est que plus le temps a passé... Plus, finalement, la société s'est sécularisée, devenue de plus en plus laïque et déconnectée, finalement, de l'Église ou des institutions ecclésiales, plus les gens étaient renvoyés à leur propre recherche personnelle. Et parallèlement, je pense que dans la société, il y a un grand mouvement depuis fort longtemps de retour à l'expérience personnelle. Et qu'au fond, on en a un peu marre des discours théoriques. Et donc on est assoiffé de partage d'expérience, par exemple. Ça se voit tous les jours à quel point on apprécie quand quelqu'un ne se contente pas de faire des grandes déclarations, même sur le plan spirituel et surtout sur le plan spirituel, mais partage au fond quelque chose qui vient du plus profond de sa vie intérieure, on va dire, de sa spiritualité. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est moins théologique, c'est ça que je voudrais dire. C'est que si je regarde la Bible, si j'ouvre la Bible, je vois que ça n'est que des partages d'expériences. Tous les auteurs bibliques ne font que de parler de ce qu'ils ont entendu de Dieu, quelle est la voix qui s'est exprimée, enfin qu'ils ont pu recueillir ou entendre, et comment ils l'ont, ce que ça change dans leur vie de tous les jours. Alors vous allez me dire, mais on peut faire n'importe quoi avec l'expérience. C'est vrai qu'on peut dire, ah ben moi c'est mon expérience, que Dieu me dit que Dieu m'a dit qu'il fallait faire ceci, cela, etc. Non, parce que il y a un garde-fou qui pour moi est toujours celui auquel je reviens, qui est une parole de Jésus qu'il a répété plusieurs fois: on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Donc, est-ce que ce que vous me partagez de votre expérience vous fait vivre ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à vivre, qui vous aide à avancer, à grandir spirituellement ? Et c'est ça le critère. Parce que ça ne suffit pas de dire on ne veut plus de grandes déclarations théologiques, on veut que ça soit enraciné dans l'expérience. Encore faut-il que cette expérience ne soit pas quelque chose de mortifère. Et donc, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. C'est là que, personnellement, je discerne quelque chose qui vient du souffle de vie ou du souffle de vérité. C'est que la personne, elle en vit. C'est, à l'évidence, ça l'aide à avancer, à se remettre debout quand elle est au fond du pot, etc.
Mais la source, effectivement, on sent bien quand même dans notre expérience spirituelle qu'il y a quelque chose de cet ordre dans notre soif et dans ce qui nous arrive parfois de trouver, de recevoir. Mais est-ce qu'une source, comment dire, c'est pas un peu passif ? Est-ce que c'est pas très amoureux, une source, finalement ? C'est les limites, finalement, des images, peut-être, non ? Puis ça bouge pas tellement, ça
reste... Ah ouais, la source, ça bouge énormément, au contraire.
Ça bouge ?
Eh bien oui, une source, justement, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce symbolisme, parce que la source se renouvelle sans arrêt, elle n'est jamais la même. Elle entraîne... Elle rafraîchit toujours d'une manière différente, mais ça se renouvelle sans arrêt.
Oui. Oui. Et puis même des fois, elle se déplace. Moi, je me connais un chalet d'alpage. Par exemple, ils avaient une source au pied du chalet d'alpage. Un beau matin, la source avait disparu et elle était 100 mètres plus loin.
Ah, c'est génial.
Et donc, ils ont déplacé le chalet. Mais
c'est génial, ça.
Mais quand même, c'est une source.
C'est génial, ça.
Oui, mais quand même, une source, c'est pas très... c'est pas très amoureux, quoi, si je dire, par rapport au Dieu de la Bible.
Mais ça chante, ça chante d'une manière très amoureuse. Ça chante.
Oui, et puis c'est vrai que dans la Bible, par exemple, le rocher source, il suit les Hébreux dans le désert.
Ouais. Ouais, c'est une il y a une parole, je ne sais jamais dans quel livre c'est, qui dit « Toutes mes sources sont en toi ». Et moi, à une époque de ma vie, ça a été vraiment déterminant, parce que je me disais, mais tout ce qui me rafraîchit, tout ce qui m'apaise, qui me nettoie, qui me purifie, qui me désaltère, vient de là, de cette source avec un grand S.
Oui, donc je trouve qu'effectivement, ce genre de travail que vous faites dans ce livre, sur la source par exemple, parce qu'effectivement c'est quand même un peu le sujet du livre, mais d'abord pour nous, je crois que ça permet de redécouvrir aussi la profondeur de sens qu'il y a dans ces concepts. Ça nous encourage à un mouvement.
C'est symbole.
C'est, voilà.
Pardon.
C'est symbole, oui.
Oui, puisque justement, oui, oui. Je peux déclarer la guerre aux concepts en ce qui concerne Dieu, justement.
Oui,
parce que les concepts, c'est justement quelque chose d'extrêmement cérébral. J'ai fait suffisamment de philosophie, je l'ai suffisamment enseigné pour savoir que c'est pas de là que vient la vie. Et donc, je ne me suis pas beaucoup étalée là-dessus, mais j'ai quand même bien évoqué cette différence entre le concept et le symbole. Le symbole, il parle de manière différente. Vous, quand je dis source, vous y voyez quelque chose. D'ailleurs, vous avez parlé du chalet d'alpage. Moi, pas, parce que ce n'est pas du tout de là que je viens. Mais ça me parle autrement. Et si on prenait chaque personne ici, chaque personne, ça lui parlerait autrement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tellement de symboles. Finalement, chacun a ses propres symboles pour désigner ou évoquer cette réalité insondable, en fait.
Si je disais concept, parce que c'est vrai que dans nos milieux, j'allais dire peut-être un peu libéraux, progressistes, on aime la philosophie, on aime la théologie, on articule. Et puis, bon, il peut y avoir la tentation, effectivement, d'éliminer le Dieu avec un grand D comme existant en dehors de l'humain, finalement, en dehors de cette quête humaine, et de faire de Dieu, effectivement, un concept. C'est-à-dire, c'est ce qui fait... c'est ce qui est beau dans la vie de l'humain, c'est ce qui fait fleurir les fleurs au printemps. Et donc on peut, et c'est vrai que le mot spiritualité peut tourner peut-être un peu, bon, pour les trop libéraux, j'allais dire trop libéraux pour moi, enfin je veux dire les très libéraux, pour pas être négatif, ça, Dieu peut devenir un, je veux dire l'ultime, le point, les valeurs poussées à leur aboutissement. Ou bien, si on va dans les rayons spiritualité des librairies générales, on va tomber sur renouveler ses énergies, on va tomber des choses comme ça. Donc ça peut devenir soit quelque chose de très effectivement abstrait, ou bien ça peut devenir quelque chose de très...
impersonnel.
Très impersonnel,
voilà.
Oui.
Alors, c'est amusant parce que l'énergie, elle est complètement présente dans les textes bibliques.
Oui.
Et ça me fascine.
Oui, non, c'est vrai, tout à fait.
Et
mais c'est des fois un peu plus personnel que ça, non, Dieu.
Oui, mais c'est une énergie de vie, c'est l'énergie du vivant. Alors, j'aime bien dire le vivant, parce que là, il y a un lien beaucoup plus personnel. Encore que, si pour certaines personnes, leur relation à Dieu, c'est une relation à cette énergie de vie, et que c'est peut-être moins personnalisé que ce que moi, je peux vivre dans ma propre expérience, c'est complètement respectable, dans la mesure où, pour la personne, c'est ça qui la fait vivre. Et elle l'exprime comme ça. Donc, j'ai beaucoup creusé, au fond, la richesse et à quel point ça me faisait grandir spirituellement, moi-même, et humainement, que de me dire, mais ta manière d'exprimer cette quête, cette aspiration à plus grand que toi, c'est ta manière. Et toutes les manières des autres sont valables, sont légitimes. Et si les autres l'expriment d'une autre manière, c'est là pour t'apporter à toi une richesse de plus. Et en t'ouvrant à une autre expérience du divin, eh bien, tu enrichis toi-même ta perception du divin. Et ça c'est, enfin, ça m'anime très, très profondément.
Oui. Et puis, c'est vrai que ça peut faire passerelle aussi avec des athées, c'est-à-dire qui...
Complètement.
Parce qu'eux aussi, je veux dire, bien sûr, un athée cherche aussi ce qui va être source d'une vie plus vivante pour la suite de sa trajectoire.
Et puis, les nombre de personnes qui se disent agnostiques, et souvent des chrétiens eux-mêmes, dans le sens, et j'aime beaucoup le mot agnostique, veut dire « je ne sais pas ». Le fil rouge de tout ce livre, c'est « je ne peux pas prétendre que je sais qui est Dieu ». Ah oui, mais alors vous avez la foi ou vous n'avez pas la foi? On me répond ça. Et encore une journaliste récemment. Je ne sais pas, au fond du fond, je ne peux pas prétendre que je connais Dieu sous prétexte que j'ai eu des expériences spirituelles fortes ou que j'en ai régulièrement. Je reste dans les premiers siècles du christianisme, mais enfin, c'est resté tout au long de l'histoire de l'Église, qu'il y a eu des gens qui ont développé la notion d'apophatisme, c'est-à-dire. L'apophatisme, c'est on ne peut dire que ce que Dieu n'est pas, mais dire ce qu'il est, c'est totalement impossible. Ça déborde de tous les côtés. Donc, on va plutôt dire ce qu'il n'est pas.
C'est la théologie négative, oui.
Ou théologie négative ou théologie apophatique. Et ça a toujours existé au fil des siècles, quand même. Ça m'habite très profondément. Oui. Je prétendrai jamais avoir fait le tour de qui est Dieu. Il y a une manière de copiner avec Dieu qui m'énerve. Oui, c'est vrai. Dieu m'a dit, et puis... Dès le matin, quand mon réveil sonne, Jésus est là. Et puis, il y a ce côté proximité immédiate. Je respecte tout à fait que l'expérience de certains soit cette proximité ou cette présence, ce sentiment de la présence divine. Mais il n'est pas à notre disposition, c'est ça. Et s'il nous paraît absent à certaines époques de notre vie, il a ses bonnes raisons. Puis, je veux dire, ça me dépasse complètement. Simplement, ça me ramène sur le plancher des vaches, parce qu'il y en a tellement qui voudraient sentir cette présence quotidienne à chaque moment de leur vie. Si de temps en temps, moi, je ne la sens plus, cette présence, d'une certaine manière, ça me remet vraiment en lien avec beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, y compris de croyants.
Oui. Et puis, on a peut-être trop culpabilisé les gens en disant, si vous ne sentez pas Dieu, c'est que c'est vous qui faites écran, parce que lui, bien sûr, il est là sur votre épaule, à vous chuchoter à l'oreille, mais c'est très culpabilisant.
Et complètement. Et c'est une... Oui. Qui sommes-nous pour dire, je connais Dieu, c'est incroyable quand on réfléchit. Même si on peut avoir des expériences, et Dieu sait que j'en ai, et que j'en ai eu, et que je suis ouverte à toutes ces expériences de proximité divine. Mais ça reste fondamentalement un mystère immense, quelque chose d'insondable.
Mais d'ailleurs, il y a des personnes pour qui ont eu, par exemple, une seule fois dans leur vie, d'une manière imprévue, une expérience très forte de Dieu, et ça pourra être fondateur pour leur existence entière. Donc on pense bien sûr à Paul, à Pascal, vous parlez dans le livre de Schmitt, non, c'est ça ?
Éric Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu, puis un vieux monsieur que j'accompagnais, justement, que vous disiez quand j'étais pasteur à Genève. Il était géologue et il me répétait à peu près chaque fois que je le voyais, moi je suis un scientifique, donc j'ai besoin que les choses soient expliquées, etc., par A plus B. Mais il avait fait dans sa vie une expérience à l'âge de 40 ans, mais alors il y a eu un avant et un après, hein.
Oui.
Il était en quelque sorte devenu vraiment chrétien à partir de là. Mais il n'est jamais devenu charismatique, il est resté avec son esprit de scientifique, mais alors à un point, on avait des discussions sur l'au-delà, sur ce qui se passait de l'autre côté du voile. Il me disait, c'est intéressant, c'est... Comment il me disait ? C'est intéressant, c'est... Comment il me disait ça ? Ces élucubrations. Non, ces spéculations. Il me disait, c'est intéressant, ces spéculations. Et moi, je lui disais, mais ce n'est pas des spéculations, c'est des expériences que je vous partage là. Donc, pour dire qu'il restait très scientifico-scientifique, il est resté comme ça toute sa vie. Mais alors, son événement spirituel de rencontre avec Dieu, c'était à 40 ans, mais ça, c'était fondateur, comme vous avez dit. C'était complètement fondateur dans sa vie. Voilà, il a vécu ça une fois dans sa vie.
Donc, on peut quand même capitaliser un peu ces expériences de Dieu, les thésauriser.
Ah oui, c'est ça. Et comme le peuple juif, le peuple hébreu qui était toujours appelé à faire mémoire de ce qu'ils avaient vécu en Égypte, comment ils avaient traversé le désert pendant si longtemps, de faire mémoire, souviens-toi, ça revient toujours ça dans la Bible, de faire mémoire, ou bien même Marie, quand on dit de Marie, la mère de Jésus, qu'elle repassait tout cela dans son cœur, tous ces événements. Donc il peut y avoir un événement, mais l'important c'est de le repasser dans son cœur, parce que ça veut dire qu'il est là.
Et puis,
vous n'entendez pas bien.
Ça résonne un peu.
Je suis trop près, comme ça?
Ça résonne un peu, oui, oui, ah oui.
Est-ce que vous entendez par ici?
Là-bas, ils entendent mieux,
bien.
Un peu plus.
Vous pourriez peut-être aller au fond de l'église.
C'est possible que les premiers rangs ici, sur la partie droite, vous ne soyez pas les mieux placés du monde, en fait, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Si vous n'étendez pas bien dans cette partie-là, il faut aller, par exemple, dans les chaises de première classe, qui sont là, avec même un petit peu de chaises rembourrées, là.
Ah oui,
dans
ici.
Le petit...
Oui.
Je pense que
vous entendrez comment, là-dedans?
Beaucoup mieux.
On entre comment? Il y a une porte?
Il y a des petites portes.
Il y a des portes, là, ici?
Oui. Il y a des petites portes.
Et vous entendez moyen, vous? Ça résonne. Alors, vous entendez trop.
Ça va. Bon, ils entendent bien.
Il y a un écho.
Donc.
C'est l'écho divin.
Donc, vous, effectivement, on peut capitaliser un petit peu ces expériences, mais vous parlez beaucoup de découvrir Dieu à travers les autres aussi, les expériences des autres. Et puis aussi, je trouve que sans arrêt, il y a des passages bibliques qui vous reviennent ou qui peuvent éclairer, donner sens à quelque chose. Et donc là aussi, je crois qu'on peut capitaliser à travers ces expériences des autres quelque chose sur Dieu qui tout d'un coup va permettre peut-être de décrypter des signes ou quelque chose de notre propre expérience, finalement.
Oui. Une des surprises que j'ai eues en travaillant... Ça va mieux comme ça? Parce que je suis un peu plus loin du micro. En travaillant sur ce thème, je me suis dit, bah, tiens, va regarder dans la Bible... Tous les passages où on parle de chercher Dieu ou rechercher Dieu, puisque après tout c'est une réflexion sur la quête de Dieu, quête spirituelle. Et alors en passant en revue toutes ces références, j'étais vraiment très impressionnée par le fait que la grande majorité des mentions de cette recherche de Dieu étaient liées à la recherche de la justice. Donc, souvent dans la même phrase, rechercher Dieu, c'est rechercher la justice. Rechercher la justice et le droit. Et c'est vraiment très frappant. Donc, il ne s'agit pas de rechercher Dieu là-haut, dans les nuages, en se déconnectant de notre réalité humaine et de nos réalités terrestres, sociétales, individuelles, mais que... l'expérience d'un combat pour la justice, ici-bas, dans notre vie de tous les jours, cette expérience-là, elle est fondamentalement quelque chose à partager et qui nous enrichit les uns les autres. Par exemple, moi, je suis très engagée dans l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et dans Amnesty International, par exemple, mais aussi le combat contre la peine de mort, enfin ce genre de combat-là. Et on reçoit régulièrement des informations, et on écrit, enfin on agit. Mais je suis toujours impressionnée par cette multitude de gens, dans tous les pays, toutes les cultures, toutes les religions, qui... se lèvent et disent ça peut pas continuer comme ça, je m'engage et au péril de leur vie défenseur militant pour la justice et le droit. Moi je les ressens profondément comme des frères et des sœurs, quelle que soit leur religion, leur culture, leur appartenance ethnique, peu importe, c'est des humains, et pour moi ils sont fondamentalement en recherche du vivant, grand V, en menant ce combat pour la justice. Et c'est complètement biblique quand Jésus disait « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », 9 fois sur 10, on zappe la fin de la phrase, c'est-à-dire c'est rechercher d'abord le royaume de Dieu, puis on oublie complètement et sa justice. Mais c'est indissoluble, c'est indissociable, pardon, c'est indissociable. Et donc là, toutes les expériences dont on est témoin aujourd'hui sur ce plan-là, pour moi, sont très très riches. C'est un partage d'expériences extrêmement riche du point de vue spirituel.
Oui, c'est comme les deux tables de la loi, avec celle en rapport avec Dieu, en rapport avec l'autre et soi-même, le sommaire de la loi de Jésus, Marthe et Marie. Oui, donc ça se retrouve très souvent, effectivement. Mais est-ce qu'on peut finalement se passer d'une des deux tables, ou est-ce qu'il faut les conjuguer? Est-ce qu'il y a des vases communicants? Parce que ça a été la tentation dans à une époque, finalement, en particulier dans l'Église. Quand les églises se vidaient, à ce moment-là, on s'est dit, en fait, il faut être plus consensuel, donc on va parler de partage, on va parler de... Je me souviens, il y avait un slogan de la Fédération protestante dans les années 90, qui était devenu, c'était « partager, c'est vivre ». Donc c'est vrai que ça devient des petites valeurs, une petite morale, un petit effort de justice, mais qui tient lieu, finalement, d'expérience spirituelle. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des vases communs, conjuguer les deux finalement, conjuguer et la recherche de la source ultime et la recherche de justice, rechercher le royaume de Dieu et sa justice.
C'est ce que dit ce que disent les textes bibliques. Vous me connaîtrez, il y a des textes, mais je ne les ai pas tous cités en entier, mais quand même la plupart. Il y a des textes très frappants. Cherchez la justice et vous me trouverez. Ceux qui connaissent, qui me connaissent, connaissent la justice. Enfin, ou ceux qui connaissent la justice, c'est-à-dire qui la pratiquent, parce que connaître dans la Bible, c'est toujours par expérience, très concrète. Donc, ceux qui la pratiquent, cette justice, ils me connaissent. C'est me connaître. Pratiquer la justice, c'est me connaître, dit Dieu, à bien des endroits. Donc, c'est indissociable. L'un sans l'autre n'a aucun sens.
Mais on peut pas.
Et moi, ça m'énerve qu'on dise les pratiquants à propos. Ça, c'est un passage que dans le livre aussi, je dis que. Vous savez, ces sondages, ces enquêtes sur. Comme la pratique de l'Église diminue toujours plus. Les pratiquants, pour les journalistes, pour les sociologues, les gens qui conçoivent ces enquêtes, c'est les gens qui viennent à l'église le dimanche. Mais du point de vue biblique, ce n'est pas du tout ça.
Non.
Les pratiquants, ce n'est pas du tout ceux qui vont à l'église le dimanche. Les pratiquants, ce sont ceux qui pratiquent la justice et le droit. Alors, les textes sont explicites. Il y a des passages dans les prophètes où il est dit très clairement. C'est Dieu qui parle, vous me faites vomir avec vos cantiques, vos cantiques et vos prières, vous pensez que c'est comme ça que vous allez m'amadouer, etc. Et c'est, moi, la seule chose que je demande, c'est que la justice et le droit se pratiquent entre vous. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement les grands combats contre la torture ou la peine de mort, c'est dans la vie de tous les jours. Est-ce que je suis juste avec mon conjoint quand je lui parle de cette manière-là? Est-ce que je suis juste avec mes enfants, avec mon père, ma mère, ma cousine, si, quand je les traite de cette manière-là, c'est de tous les jours, ça. Et il dit, c'est ça, la pratique. Qu'attend Dieu, le Dieu biblique? C'est cette pratique-là. Donc, arrêtons d'appeler les pratiquants ceux qui viennent le dimanche matin à l'église. Les deux peuvent aller ensemble, d'ailleurs. Mais
non, c'est ceux qui exercent.
C'est ça, et c'est quand même important de s'en souvenir de ça.
Oui, c'est ça. C'est ceux qui cherchent à travailler, peut-être, justement. Mais justement, je rebondis sur cette question. Vous êtes professeur de théologie pratique. En quoi est-ce que l'Église, justement, pourrait être au service de cette recherche, c'est-à-dire nous aider ensemble à être peut-être plus en quête, ou plus en quête en vérité de cette source et de la justice, effectivement? Sans aliéner, finalement, faire juste le bon dosage, le bon réglage, peut-être.
Je pense que c'est plus un positionnement qui pourrait changer. Déjà, pour les ecclésiastiques eux-mêmes et pour les personnes engagées dans les églises et dans les institutions ecclésiales, c'est de se dire, mais arrêtons de penser que les gens qui ne viennent pas à l'église n'ont aucun intérêt pour la source, enfin pour plus grand que nous, pour ce vivant. Arrêtons de penser que le spirituel, c'est nous qui mettons des barrières au spirituel. Et si même nous voulons bien entrer en relation et écouter combien de gens sont engagés dans des combats pour la justice, pour plus de solidarité, plus de respect les uns pour les autres, alors qu'ils viennent peut-être jamais à l'église. Mais ils sont l'église. C'est ça qui, c'est notre regard qui doit changer. C'est qu'ils sont l'église. Beaucoup de gens sont l'église, en fait. Et nous pensons, ceux du dehors. On dit toujours, ils sont à la marge, par rapport à l'église. Comme si la norme, c'était l'église. Mais c'est peut-être le contraire, c'est nous la marge, quand on veut se couper de toute cette masse de gens qui sont bel et bien engagés dans plein de combats. Moi, je me dis, c'est mon regard, moi, personnellement, qui a changé. C'est mon regard qui a changé. C'est que j'ai arrêté de penser que les croyants, c'était ceux qui se reconnaissaient dans une église, par exemple.
Non, mais ça, c'est
par
clair, exemple. Oui.
Voilà, c'est notre perception du spirituel qui change aussi dans ce sens-là. C'est que puisque spiritus vient du mot, enfin, est l'équivalent de latin du mot grec pneuma, qui lui veut dire le souffle, même le vent, ce vent ne cesse de souffler partout dans la société, dans nos familles, dans nos lieux de travail, etc. Et voyons tout ce qu'il déplace, ce souffle, constamment en nous-mêmes, chez nos contemporains, dans leur cadre de vie, et voyons combien de choses sont constamment en train de grandir, de se développer, etc. Et bien, il n'y a pas que des jolies choses, mais il y a quand même aussi ça. Et Jésus disait, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est comme le vent, le souffle divin, le souffle de l'esprit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu constates à quel point il fait bouger les choses et les gens, surtout. Donc, c'est plus un spirituel déconnecté comme ça. C'est vraiment très concret.
Alors, vous donnez plein de petits trucs, finalement, dans votre livre qui aident, je dirais. Et en fait, moi, j'en suis très reconnaissant parce que souvent, on refuse de dire, je vais vous donner des recettes. Ah non, on ne donne pas de recettes. En fait, c'est des fois pratique, quand même, des recettes, d'avoir un petit peu.
J'espère que ça ne donne pas l'impression que c'est des recettes.
Mais non, moi, je les trouve stimulantes.
C'est plus un partage d'expérience de nouveau, là. C'est pas dire.
Oui, non, mais c'est pas.
Écoutez, vous allez faire ça parce que j'ai testé, c'est vraiment très bien.
Non, mais.
Mais ça m'a apporté ceci ou cela, ça m'a aidé moi-même, et donc je le partage.
Oui, mais c'est présenté comme ça. C'est pas présenté comme étant. Mais je trouve que on est chaque itinéraire est particulier, mais on est un peu le même genre de bête quand même. Il y a quand même de l'humain qui nous rassemble tous. Et c'est vrai que les quelques mots que vous dites comme ça,
oui,
je trouve que ça donne envie d'essayer de trouver ses propres trucs. Oui. Mais,
vous pouvez en citer un peut-être pour que ça soit.
Mais, par exemple. Je vous avais posé une question parce que moi j'ai compassion. J'ai l'impression que dans les gens qui viennent en particulier, par exemple, demander un baptême d'adulte, et il y en a beaucoup, il y en a la moitié qui ont eu une expérience spirituelle. Pour eux, c'est pas quelque chose d'illusoire.
Ouais.
Non, ils disent oui, vraiment,
c'est authentique.
C'est authentique, ouais. Voilà. Mais l'autre moitié, les gens disent « Oui, mais je ne sais pas, moi, si Dieu existe vraiment, est-ce que j'ai senti quelque chose ? Je ne sais pas. » Et donc, j'ai un peu pitié, je veux dire pitié, parce que j'aimerais qu'ils puissent avoir cette expérience, que ce ne soit pas simplement une quête, mais que de temps en temps, ils puissent boire à cette source et savoir qu'ils ont bu à cette source. Et donc, je vous ai posé la question dans Réforme, et vous m'avez dit, par exemple, si celui qui ne sent rien, ce n'est pas si grave. Dans un sens, il peut quand même chercher la justice.
Ben oui.
Et que dans ce chemin, ça peut venir... Ou bien vous dites, par exemple, regardez les enfants, et ça peut donner une inspiration pour découvrir la source. Enfin, j'ai trouvé quand même beaucoup de petites choses comme ça, très concrètes, qui donne des pistes finalement pour tirer le fil et pour avancer. Et ça, je trouve que c'est très précieux et je suis reconnaissant que vous ayez eu l'audace, peut-être pas de donner des recettes, mais de donner en tout cas peut-être les vôtres, des pistes, des bouts de fil qu'on peut tirer pour voir ce que ça va donner. Il y en a un peut-être, c'est parler de la détresse, des moments douloureux de notre existence comme étant des lieux d'expérience possible ou privilégiés peut-être, de découvrir la source, de boire.
Ben, parce que c'est ce que beaucoup de gens disent et que j'ai expérimenté moi-même, que peut-être quand on est dans des moments de grande souffrance et de détresse, on est moins carapace, on est moins dans notre carapace de nos certitudes, nos convictions, etc., ou nos manières de penser, et on est fragilisé. Et donc, dès qu'on est dans une période de fragilisation, du coup, on devient plus réceptif à autre chose que ce dont on avait l'habitude jusque-là. Et donc, il y a une ouverture d'autant plus grande au divin, dans le sens d'un inconnu qui nous veut du bien. Je pourrais l'évoquer comme ça, le divin, l'inconnu qui nous veut du bien. Il y a une plus grande ouverture, une plus grande réceptivité. Il y a toujours cette phrase qui me touche tellement dans le livre de l'Apocalypse, où Dieu dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Peut-être que j'ai tenu ma porte fermée pendant très longtemps parce que j'avais peur de l'ouvrir, peur des courants d'air, peur de beaucoup de choses. Et puis Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Et au fond, ces moments de détresse, de souffrance, de déstabilisation profonde, c'est les moments où j'en peux plus d'être enfermée et ma porte fermée à double tour, parce que je ne vais pas m'en sortir, notamment dans le deuil, mais pas seulement. Je ne vais pas m'en sortir si je maintiens ma porte fermée à clé, comme ça, cadenassée. Donc je vais entrouvrir un petit peu ma porte et quelque chose de ce souffle inconnu qui me veut du bien va pouvoir entrer dans cette pièce. Donc, un autre passage où je dis par rapport à la spiritualité des enfants, puisque Jésus disait dans l'évangile de Luc que les humains les plus proches de Dieu, ou du divin, de la source, sont les enfants, et notamment les petits-enfants. Même dans le texte grec, c'est ceux qui n'ont pas encore la parole. Donc les tout-petits ont... tu as révélé des choses divines, il dit à Dieu, aux tout petits, alors que tu les as cachées aux sages et aux intelligents. Donc, dans les périodes de grande souffrance et de déstabilisation et de fragilisation, nous nous retrouvons presque comme des petits enfants, c'est-à-dire avec même de la peine à parler, même de la peine à nous exprimer, et extrêmement démunis. Et donc, du coup, enfin en tout cas c'est mon expérience, plus réceptive. Moi, j'ai toujours beaucoup plus réceptive dans ces périodes-là, et j'entends beaucoup de gens dire la même chose, et même j'entends des gens me dire aujourd'hui, mais maintenant que vous me posez la question, en réalité je comprends et je réalise que ma proximité avec Dieu remonte à ma toute petite enfance, quand je n'avais personne à qui parler. On m'a encore dit ça récemment à Montréal, justement. Je n'avais personne à qui parler. Et je me rends compte que si j'ai pu quand même m'en sortir et arriver à là où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'au fond, en tant que toute petite fille, je percevais cette présence divine. Donc là, il y a quelque chose de... Je pense qu'il est Alors évidemment les gens disent, mais est-ce qu'on est obligé de souffrir pour finalement faire une expérience de Dieu? Parce que ça c'est la question suivante, je pense. Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour faire une expérience de Dieu? Alors ce à quoi je réponds souvent, vous connaissez des gens qui n'ont jamais souffert? Est-ce qu'on peut passer toute une vie à travers les gouttes comme ça? Bon, on peut le nier, mais toute existence humaine comporte des moments de souffrance, bien sûr, à un moment donné ou à un autre, plus ou moins intense selon les parcours. Alors après, il faut juste écouter les gens. Il y a tellement de gens qui disent... Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'hôpital de Genève, et donc j'entendais énormément de partages, de récits de personnes n'ayant pas forcément une étiquette ou une appartenance, ni religieuse, ni autre, mais qui me disaient, c'est incroyable qu'il m'a fallu passer par cette maladie-là, ou par cette opération, ou par ce gros problème de santé, ou même ce petit, quelquefois, petit problème de santé, même, quelquefois, pour, au fond... que s'ouvre toute cette dimension de la soif d'infini, de la soif de plus grand que moi, à travers cette fragilisation, finalement. C'est ce que beaucoup de gens disent.
Alors, cela dit, effectivement, ce n'est pas pour justifier la souffrance, mais tant qu'à faire qu'elle soit là, ouais. Autant ça peut vraiment être une façon de la vivre voilà, qui est positive. Mais il y a aussi dans l'abondance, à mon avis, dans les moments les plus heureux, les moments de paradis, il y a vraiment une occasion aussi. Et moi, je le verrais, par exemple, dans le psaume le plus connu de la Bible, le psaume 23, la première partie, c'est, il y a vraiment ce côté de paradis, de bonheur et de grâce, de ruissellement justement de source et qui met en mouvement, qui met en route.
L'Éternel est mon berger.
Voilà, exactement.
Je ne manquerai de rien.
Voilà. Et donc la première partie est paradisiaque et c'est une occasion aussi de boire dans la source et d'avancer. Et donc ensuite il y a le valet de l'ombre de la mort qui est là aussi un moment de vraiment sentir cette présence de Dieu qui nous permet de sortir. Et puis la troisième partie du psaume, c'est le moment de la conversion, un moment où on revient, et c'est aussi, je dirais, il y a différents lieux quand même, et le lieu de l'abondance, d'avoir grâce sur grâce, comme dit la Bible, c'est une réalité aussi que je remarque dans pas mal de personnes, en fait, actuellement, dans les personnes qui viennent, qui font une démarche de baptême d'adulte. Souvent, c'est des personnes qui disent, mais en fait, j'ai un travail, j'ai trouvé un conjoint, j'ai un appartement, j'ai peut-être même une télévision 16/9 et un chien, un chat, et maintenant, finalement. Et qui cherche du coup dans la profondeur de l'être, de chercher une source, chercher ce qui va aller plus loin que cette belle vie là, quoi, finalement. Donc voilà.
C'est ça. Oui. Et en fait, pour moi aussi, toute cette méditation, cette réflexion sur ce thème m'a beaucoup, plus que jamais, disons, fait toucher du doigt que cette dimension de l'infini ou de la joie parfaite, comme disait Jésus, la joie accomplie, elle était constamment... elle affleurait à notre vie de tous les jours. C'est pas quelque chose qui est pour l'au-delà. Longtemps, on a dit que c'était pour après la mort, dans l'au-delà, etc. Ou cette façon de parler du spirituel comme quelque chose de très déconnecté de notre réalité. Mais non, c'est au cœur même de notre réalité. Et vous disiez tout à l'heure, ce psaume-là, il commence par quelque chose de paradisiaque, mais c'est un paradisiaque qui est dans la vie
de tous les jours. Oui.
C'est quand Jésus disait le royaume de Dieu vous a atteint, ça veut dire cette dimension de le royaume de Dieu, c'est la dimension de l'invisible en fait, mais de l'invisible qui est la vie en plénitude, enfin en intensité, on va dire. Ça vient vous toucher, vous a atteint, c'est vous a touché, on pourrait presque dire. Aujourd'hui, on dirait vous a impacté, même que j'ai horreur de ce mot, mais c'est ce qu'on dirait. C'est-à-dire, ça vient constamment dans notre réalité de tous les jours. Ça peut être quelque chose qui ne dure pas longtemps, mais n'empêche que de façon fulgurante et fugitive, peut-être que ça a duré très peu, mais c'est venu, ça a fait irruption dans notre vie, ces moments de joie parfaite, enfin de joie imprenable, en fait. On sait que ça a existé, on s'en souvient, et on se dit, donc c'est quelque chose qui peut m'arriver encore, en fait.
Et puis, voilà, donc ces moments de joie parfaite, ces moments où on boit à la source, vous parlez aussi des moments de vide qui sont aussi des moments d'expérience de Dieu. Et ça peut être plus angoissant, plus douloureux, plus difficile, parce qu'on s'imagine toujours, mais là encore, on veut mettre les choses dans une case. C'est-à-dire que cette rencontre avec Dieu, ça soit un moment de plénitude, de joie, ça peut l'être.
Oui.
Et puis ça peut être
c'est
aussi
ça. Mais, oui.
cette expérience du vide. Et ce
qu'il y a c'est-à-dire que deux sont liés.
Les deux sont liés.
C'est-à-dire que si je suis moi-même pleine de moi-même, il n'y a pas de place pour autre chose, ni pour quelqu'un d'autre. Donc très souvent, c'est expérience que j'en parle dans toute une partie du livre qui s'appelle l'expérience du rien ou l'expérience du vide. C'est une expérience qui est notamment suite à des événements, hein, un deuil, la perte de quelqu'un, une souffrance intense. Mais il y a aussi le vide de l'existence dont vous parliez tout à l'heure à propos des gens qui disent qu'ils ont tout ce qu'il leur faut en quelque sorte, mais qui font l'expérience du vide. Et ben, quand on arrive à faire cette expérience du vide, on fait le vide, enfin, il se fait en nous, ce vide-là. Donc, je fais juste une parenthèse, parce que, au fond, l'origine aussi de ce livre, c'est que j'avais donné un cours à l'Université de Genève, il y a quelques années, sur, justement, la quête de Dieu. J'avais mis des guillemets à Dieu, déjà, chez nos contemporains, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Et il y avait, quand les étudiants ont dû faire leur travail écrit, j'avais proposé parmi les sujets, ils avaient le choix entre plusieurs sujets, et un des sujets était est-ce que l'expérience du vide ou du rien, du vide c'était, est-ce que l'expérience du vide peut être féconde dans la vie spirituelle, pour la vie spirituelle. Et à ma grande surprise, la majorité des étudiants avaient choisi ce sujet-là. C'était des jeunes de niveau bachelor, donc deuxième, troisième année d'université. Ils n'étaient pas vieux. Hein. Ça leur parlait étonnamment, cette expérience du vide. Moi, je me disais, mais ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous chercher là comme sujet ? Ben non, ça leur parlait énormément, l'expérience du vide. Et là, donc du coup, j'ai creusé ça.
C'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire. Et c'est vrai que plus nous laissons au lieu de lutter contre ce vide, nous allons dedans, c'est-à-dire nous le laissons advenir, ce vide en nous, qui est d'abord peut-être un vide par rapport à des choses de notre vie de tous les jours ou des êtres dont nous étions proches. Et puis là, on est renvoyé à un vide. Laisser ce vide se creuser, en fait, il vient un moment, alors ça peut être très angoissant, en effet, mais à un moment donné, c'est comme, ça devient vraiment, je dis, cette béance, devient berceau. Parce que il fallait que ça se creuse pour que nous puissions accueillir autre chose. Il devient berceau de cette présence divine, justement, que nous n'arrivions pas à ressentir, nous n'arrivions pas à en faire l'expérience. Mais dans la mesure où nous avons laissé se creuser cet espace en nous, profondément, en consentant à cet espace vide, creux au fond de nous, eh bien, cette présence divine, nous commençons à la pressentir et à la vivre, à l'expérimenter. Moi, j'ai encore vécu ça récemment avec le deuil de ma mère, et qui d'ailleurs a été conjugué avec un ou deux autres deuils liés à ça, mais en tout cas, et cette expérience du vide, c'était étrange parce que quand j'ai écrit le chapitre sur l'expérience du vide, j'étais dans ce vide jusque-là. C'était impressionnant comme ça coïncidait complètement à ce que je vivais, en fait. Et quand on l'a fait, cette expérience, on n'a pas l'impression qu'on va en sortir. On n'a pas l'impression que cette béance va devenir berceau. Ça, c'est une jolie formule que je dis aujourd'hui. Mais sur le moment, je ne faisais pas ma maligne, hein, parce que je n'avais pas du tout l'impression que j'allais en sortir. J'avais vraiment l'impression que ce vide était définitif. Chose que nous partageons, beaucoup d'entre nous, dans la traversée d'un deuil. Dans la traversée d'un deuil, le vide que crée la disparition de l'être aimé... dans le vécu du moment, qui est un moment qui peut durer plusieurs années, on a l'impression que ça sera impossible à combler. Le vide sera impossible à combler. Et en réalité, cette présence divine, ou cette expérience d'une présence attentionnée, d'une présence d'une divine douceur. Pour prendre l'expression de Maurice Bellet, ben, elle vient très discrètement et petit à petit, et sans tambour ni trompette. Hein. Ça, et progressivement, ben, on se rend compte que, enfin je, pas dire on, je me suis rendu compte qu'il fallait accepter cette béance pour que je puisse petit à petit la sentir habiter, cette béance.
Mais même peut-être dans l'expérience de Dieu, vous parliez de ce livre assez étonnant, Le nuage de l'inconnaissance, qui est aussi de cette tradition mystique finalement, à la fois théologique et mystique, mais où la mystique dépasse finalement, le croyant fait de la théologie, mais voilà, sachant que la mystique est au-delà de ça. Donc peut y avoir l'expérience du vide face à Dieu, de se rendre compte qu'on ne sait plus rien sur Dieu. Et donc là aussi peut y avoir un vertige. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que mardi dernier, on avait invité en face Valère Novarina, qui est un auteur à moitié suisse d'ailleurs aussi, un auteur de théâtre qui parlait de ça et qui faisait remarquer que le mot vide, c'est l'anagramme du mot Dieu, en fait, si on accepte de marquer comme les Romains, les V comme un U.
Ah oui, d'accord.
Et donc, il parlait de cette expérience-là aussi, donc de la mystique. J'ai encore une dernière question avant de passer à la salle.
Peut-être juste une question par rapport au nuage de l'inconnaissance, qui est un écrit qui a été écrit par un texte anonyme au XIVe siècle, en Angleterre d'ailleurs. Le fil rouge de cet ouvrage, ça dit... dis-toi bien une chose, c'est que chaque fois que tu es en relation avec Dieu, quand tu cultives ce lien avec Dieu, il y a toujours un nuage d'inconnaissance qui est entre toi et la divinité. Il emploie l'image de frapper. Et quand tu frappes en direction de Dieu, il y a toujours ce nuage d'inconnaissance au fond. Inconnaissance, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait de apophatique, c'est-à-dire on sait ce que Dieu n'est pas, mais on est fondamentalement ignorant, on est dans le non-savoir sur ce que Dieu est, parce que c'est infiniment, ça nous dépasse infiniment.
Donc tu dois prendre conscience
qu'il y a toujours un nuage d'inconnaissance entre toi et le divin.
C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas Dieu, qu'on ne connaît pas Dieu, et donc quand on accepte d'être dans ce non-savoir ou cet au-delà du savoir, du coup, il y a comme tu disais, on crée une sorte de béance où on peut accepter, enfin peut-être, d'avoir quelque chose de l'ordre d'une expérience ou d'une connaissance plus expérimentale que cérébrale.
Mais quand même, je peux compléter parce que ça c'est... le nuage de l'inconnaissance, mais il y a aussi toute la fin du livre avec cette possibilité de le nommer. Ça vient sur quelque chose de très positif qui est que un rabbin du 16e siècle, sauf erreur, Moïse Cordovero, il avait expliqué que quand tu nommes Dieu, tu le fais exister pour toi. Ta manière de nommer Dieu, ça reflète vraiment ton... l'expérience que tu as de lui à ce moment-là. Quand tu nommes Dieu, tu le fais exister pour toi. Et donc je militerai pour qu'on arrête d'avoir des mots qui soient tous les mêmes et traditionnellement toujours les mêmes pour désigner cette réalité du divin, parce que nos expériences sont très variées. Alors c'est pour ça que je m'étais exercée dans toute la fin du livre à proposer des manières symboliques de le nommer, qui sont les miennes, hein, en lien avec justement mon expérience. Alors, chaque fois, je disais pourquoi. Pourquoi cette façon de le nommer me parle à moi, à cause de ma propre histoire, par exemple. Et pour chaque personne, ça va être différent. Quand tu nommes Dieu, tu le fais exister pour toi. Ça se met à vibrer parce que c'est le fruit de ton expérience. Alors, c'est très personnel, après.
Mais justement, voilà encore un truc intéressant, si je peux dire. Vous voyez, mais justement, j'avais une dernière question, peut-être avant de passer la parole à des personnes qui pourraient en poser. La source que je cherche, comment on articule ce « je » Parce que, d'accord, c'est quand même d'abord une personne, mais comment on articule ce jeu avec, avec les autres? C'est la source que nous cherchons ensemble, parce qu'on s'est quand même rassemblés ce soir. On sait bien qu'on a en commun finalement cette soif de la source, donc je la cherche seule, comme dirait la chanson, mais je la cherche avec d'autres parfois, je la cherche aussi peut-être pour d'autres, et en témoigner, je ne sais pas.
Et en fait, personne ne peut faire l'économie de la chercher personnellement, c'est surtout ça que ça veut dire. Jésus, quand il s'adressait aux gens, c'était toujours un par un. Toi, que dis-tu? Toi, que veux-tu que je fasse pour toi? Toi, suis-moi. Donc, c'est toujours on ne peut pas faire l'économie de cette quête personnelle. Par contre, j'arrête pas de dire que, et je lui dis encore ce soir, que cette quête, surtout comme mon expérience, m'ouvre immédiatement à la quête des autres, parce que tout le monde cherche, alors plus ou moins consciemment, cette source de la vie. Ça m'ouvre immédiatement pour telle personne l'exprime avec tel mot, se réfère à telle expérience pour nommer ce divin à sa manière. Et ça m'enrichit, moi. Et ce que je vais partager va peut-être enrichir d'autres personnes. Donc c'est presque immédiatement, et d'ailleurs le symbolisme de la source va dans ce sens, parce qu'une source, elle va irriguer des champs à l'infini. Donc c'est tout de suite fécond, et ça a tout de suite une dimension communautaire, je dirais.
Donc un immense merci pour ce livre.
Je peux encore dire juste une chose, parce que en fait, si je dis voilà ce que je crois moi, et malheureusement c'est souvent voilà ce que je sais. Ça m'enferme dans le jeu. Si je dis on est tous des chercheurs de cette source, on le dit avec nos mots, en lien avec nos expériences personnelles, immédiatement ça ouvre. Immédiatement on est en lien avec les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, c'est peut-être d'autant plus important que notre quête personnelle notre manière d'exprimer notre spiritualité ou notre relation à Dieu se fasse de manière éminemment personnelle, où je me contente de dire ce que c'est pour moi. Parce qu'immédiatement, ça permet aux autres de dire ce que c'est pour eux.
Voilà ce que je veux dire. Donc ça soit authentique, sans faire la leçon à celui qui est à côté. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui aimeraient poser des questions?
Attends, François.
Voilà. J'aimerais savoir comment vous concluez votre livre. Je ne l'ai pas encore lu.
Et je crois que j'ai conclu par une citation, non? Je crois que c'est une citation. Je ne sais pas par cœur. Oui, c'est une citation de Raymond Panikkar, en fait. Alors, comment je le conclue, moi? C'est, chercher Dieu peut simplement signifier parfois désespérer de le connaître et de le rencontrer, mais sans renoncer à lui parler. Sans contenter, entre guillemets, le temps qu'il faudra, ô toi, qui que tu sois. Car, comme le dit justement Raymond Panikkar, qui est ce immense théologien contemporain, il est mort il n'y a pas longtemps, dont la mère était portugaise et le père indien, ou l'inverse, je ne sais jamais, qui a écrit un livre qui s'appelle L'expérience de Dieu, qui est lumineux. Il dit, l'unique manière de parler de Dieu est au vocatif, c'est-à-dire en tu. L'unique manière de parler, c'est de lui parler, en fait. Le vocatif est l'exclamation qui jaillit du fond de l'âme, tellement du très fond de l'âme, qu'il ne se risque même pas à être entendu par celui qui appelle. Dieu, symbole intraduisible, un mot qui veut exprimer ce qui, par sa nature même, est inexprimable. et que nous employons pour donner à entendre un mystère, un lieu qui est celui de la liberté et un royaume qui est celui de l'infini. Voilà, c'est la fin du livre.
Merci beaucoup.
Donc ça reste ouvert. Attendez, attendez.
Chère madame, je ne vais pas aller très profond, mais quand même, j'ai 3 petits-enfants que les parents ont refusé de baptiser. Je ne m'y fais pas du tout. Je voulais juste vous demander, par rapport aux petits-enfants qui, en principe, trouvent Dieu plus vite, comme ce fut mon cas, j'étais tombée dedans avant que maman ouvre la bouche, et je m'en souviens très bien. Je voulais demander si vous considérez que c'est une grosse perte, que... ou alors que peut-être ça se fera tout seul. Les mères qui sont d'épouvantables légères et des courtisanes de la vie disent « Oh, ils choisiront !» Moi, je suis terrifiée. Je voulais votre avis.
Alors, je suis mal placée parce que nous avons aussi des petits-enfants et aucun n'est baptisé. Alors qu'on est pasteurs tous les deux, moi je suis pasteurisée jusqu'ici parce que j'ai 2 grands-pères pasteurs, tous mes oncles et encore des cousins, enfin... Et alors là, ce qui me réchauffe vraiment le cœur, c'est tout ce que j'ai trouvé sur ce que je disais tout à l'heure sur la recherche de justice et du droit. Ils sont engagés, nos enfants sont engagés jusqu'ici, belle-fille aussi, dans le combat pour la justice, le respect, le droit, la solidarité. À l'échelon national, donc en Suisse, et international, avec les pays émergents, enfin, etc. Et quand je les vois vivre entièrement consacrés aux autres, je dis ça me réchauffe vraiment le cœur, et je me dis le reste, ça ne m'appartient pas. Bien sûr que j'aurais bien aimé déjà qu'ils demandent le baptême pour eux-mêmes, et ensuite qu'ils baptisent leurs propres enfants. Mais ça ne correspond plus à cette génération-là. En tout cas, ces rites-là ne leur parlent pas, parce que pour une bonne raison, c'est qu'ils ne vont pas plus à l'église que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Et je me dis, si ces paroles sont vraies, ce que je crois, les paroles bibliques, connaître la justice, c'est-à-dire la pratiquer, c'est me connaître. Je me dis, pourquoi je devrais me faire du souci? Voilà. Il y a une parole qui m'a énormément touchée j'ai transcrite dans ce livre, qui est un rabbin qui a écrit, c'est dans le Talmud en fait, je crois, et qui a écrit que Dieu, enfin, il mettait ce propos dans la bouche de Dieu, même si les humains ne connaissent pas mon nom, mais qu'ils pratiquent la justice et qu'ils font advenir la paix entre eux, je n'exige rien de plus. Car pratiquer la justice et instaurer la paix sur la terre, c'est connaître mon nom. Et c'est dans le Talmud. Et ça, c'est une parole qui m'a énormément rassérénée, si vous voulez, par rapport à cette question. C'est juste ce que je peux partager. Il y a juste un problème, c'est que M. Perrier avait déjà demandé la toute première fois, si vous permettez, parce que M. Perrier avait levé la main dès le début. Perrin ou Pierre Perrier? Perrier, c'était juste. Excusez-moi.
Il me semble que dans votre recherche de la source, il y a un tempérament mystique qui favorise les choses, une sorte de souffle. C'est très beau d'ailleurs, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est un peu comme une sorte d'envol qui aide à les saisir les choses au niveau où on doit les saisir. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et il y a des gens qui sont rationalistes, qui sont cartésiens, qui classent, qui rangent, tout est ordonné, etc. Alors eux, ils n'auraient pas accès à la source. Est-ce que ce qui est fondamental, ce n'est pas une clé, d'ailleurs vous avez un peu abordé, me semble-t-il, la chose. Est-ce que la clé, ce ne serait pas une sorte de déprise de soi? Il arrive un moment où il faut se déprendre, défaire de soi-même pour laisser autre chose advenir en soi. Ça, c'est une première question. Et une deuxième question,
non, ceci étant dit... Une à la fois, s'il vous plaît, parce que
bon,
je...
Bon, d'accord.
Donc, ce qui vous, se déprendre, ça veut dire laisser advenir ce vide, justement,
oui,
en soi. Ça me fait penser que dans les premiers pas vers la source, j'avais évoqué la spiritualité de l'enfant, se connecter à notre spiritualité d'enfant, et deuxièmement, la pratique de la justice. Hein. C'est deux choses qu'on a évoquées tout à l'heure. Et la troisième chose, c'était ouvrir son intelligence à la compréhension des Écritures. C'est ce qui est dit dans les textes au moment... Vous savez, les disciples d'Emmaüs, par exemple, il leur ouvrit l'intelligence. C'est joli comme expression. Il leur ouvrit l'intelligence, puis à un autre endroit, pour comprendre les Écritures. Et je pense qu'il y a une activité de l'intelligence qui n'est pas le rationalisme bête et méchant qui classe et qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, etc. Mais il y a une intelligence qui est tout aussi, qui est plus féconde à mon avis, parce que c'est une intelligence qui est mise en relation avec le cœur. Pour les Hébreux, le cœur est le siège de l'intelligence. C'est le cœur qui est le siège de l'intelligence. Donc il n'y a pas le rationnel d'un côté, l'affectif et l'émotionnel de l'autre. Il y a un seul lieu dans l'anthropologie biblique, sémitique, qui est le cœur. Et là, c'est le cœur, on pourrait dire aujourd'hui l'intelligence du cœur d'ailleurs, hein, ou l'intelligence émotionnelle, parce que c'est une forme d'intelligence qui est déterminante pour faire des liens, vous dites pour se déprendre, des raisonnements purement mentaux ou cérébraux, A plus B égale C. Donc c'est pour connecter sa capacité de réflexion et d'intelligence à toute notre réalité humaine, y compris affective, émotionnelle, etc., imaginative, intuitive, etc. Et donc c'est aussi une manière, je le dirais, je vais un peu plus loin de ce que vous évoquiez en disant se déprendre. Personnellement, c'est le moment où je me déprends, je lâche mon mental. Le mental déconnecté finalement de toutes les autres dimensions qui sont aussi une source énorme de discernement et de compréhension et d'intelligence. Ce mental qui en effet nous fait tourner en rond. Voilà. Alors,
Il y a une chose que je crois importante malgré tout dans l'ordre de la connaissance, parce que quand j'écoute les radios, les événements d'ordre religieux, même les événements non religieux, les commentaires qui sont faits par les journalistes, en tout cas ceux qui parlent à la radio, sont souvent marqués au sceau de l'ignorance.
Oui.
Il y a un manque de connaissance de l'histoire de la foi.
Ah oui.
Et j'ai appris ce matin que, comment il s'appelle, le philosophe qui cause sur toutes les radios, qui fait à Caen, Michel Onfray, vient de sortir un bouquin de 900 pages. Qui est complètement une ignorance de... Bon, mais oui. Fermons cette parenthèse. Ma deuxième question, c'était, ayant dit ce que nous venons de dire là sur la question du mysticisme, de l'accès, etc., quelle part vous faites au livre de recherche de Dieu, de ce qu'il est, des définitions telles que Tillich, telles que Arnac, telles que même Paul Ricoeur? Je lisais hier un texte de Paul Ricoeur sur justice et amour. J'aime bien Paul Ricoeur, mais là, il était totalement incompréhensible, Arnac aussi. Et je me suis pourtant donné comme devoir de pouvoir procéder.
Pas moi.
Mais complètement désespéré en disant quand est-ce que j'arriverai à être assez intelligent, à comprendre, à être formé, à accéder à ce texte. Ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai fait part de mon désarroi à Gagnebin, Laurent Gagnebin, et je lui ai dit, tu sais, moi j'y comprends rien. Il m'a dit, mais c'est pas grave, Jacques, tu continues la lecture, tu prends ce que tu aimes, et tu fais ton propre arnaque à toi-même.
Ok, moi j'ai arrêté d'être maso là, personnellement. J'ai arrêté d'être maso parce que je m'en suis tapé des livres comme ça, où on comprend rien, où c'est totalement déconnecté de la réalité et de notre expérience. Ah, je ne dis pas que c'est ces livres précisément qui le sont, mais je n'ai pas voulu faire ça. Et mon livre de chevet, un de mes livres de chevet pour cette recherche-là, c'était vraiment Raymond Panikkar, L'expérience de Dieu. un petit livre comme ça, d'une densité, mais lumineux. Et Panikkar, P-A-N-I-2-K-A-R.
C'est la dernière page, c'était donc de la conclusion, le dernier paragraphe.
C'est dans la bibliographie. Et c'est extrêmement intelligent, profond, et c'est des petites phrases courtes, on peut quelquefois les relire parce que c'est très dense, mais c'est lumineux. C'est quelque chose qui m'a énormément apporté, et franchement, un livre comme ça, ça en vaut 10 autres.
Hein, et ou vous 15. Avez évoqué Maurice Bellet aussi.
Ah, Maurice Bellet, énormément.
Et ouais. Puis il y a des livres pas mal aussi de Lita Basset, en fait.
Non, mais Maurice Bellet aussi a beaucoup écrit sur Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, etc. etc. Excusez-moi, madame, je vous avais coupé la chic.
Un étonnement, une question. Dans tout le déroulé de votre exposé, de votre livre, j'attendais jusqu'au bout un seul nom, un seul mot, un seul nom, c'était Jésus-Christ. Et à chaque fois que, je comprends bien la quête de Dieu avec un grand D, un petit D, etc., pour moi c'est Jésus. Donc j'étais étonnée que, bien que vous le citiez souvent, les évangiles, les paroles que vous nous avez rapportées sur la justice et le droit dans les évangiles, mais Jésus lui-même, pour moi, c'est la solution, entre guillemets. Je me fais comprendre, non?
Et oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on ne peut pas tout dire en quelques échanges de questions-réponses. Donc, il y a effectivement toute une grande partie sur la manière dont Jésus était assoiffé de Dieu et qu'il l'appelait son Père. Alors, Abba, c'est de l'araméen qui veut dire papa même. Donc, c'était un lien d'une très grande proximité. Donc, c'est dans toute la partie sur la divine douceur. Et sur la, je l'ai exprimé en disant la sollicitude parentale. La manière de désigner Dieu pour Jésus, c'est un parent qui serait donc à la fois père et mère, parce qu'on a cette complémentarité dans toute la Bible d'un Dieu qui console, qui prend sur les genoux, qui allaite, qui enfante, enfin, etc. Des images très féminines. Et d'un Dieu qui est défenseur, qui défend, qui console, bon, l'esprit consolateur, défenseur, etc. Donc d'un Dieu qui prend bien sa place de père. Donc il me semble qu'en disant la sollicitude, avec un S majuscule, la sollicitude parentale, on dit quelque chose de cette proximité que Jésus vivait au quotidien dans sa relation à Dieu, à la source. Voilà. Donc c'est ça. Et puis un petit plus avec le mot père, Abba, c'est que j'entends comme l'origine de toute vie, en fait. L'origine ultime, parce qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes savent très bien qui sont leurs parents, quelle est leur origine biologique, on va dire, mais pressentent qu'ils viennent de plus loin que ça. Ils viennent de très loin. Et il y a des questionnements. J'ai d'ailleurs fait récemment une journée entière sur ce thème en Suisse, à la demande d'un certain nombre de personnes qui ont fait la formation à l'accompagnement spirituel. Ils voulaient faire une journée entière sur l'origine, notre origine. Alors, c'est aussi à la source, ça. La source de toute vie, la source de tous les vivants, la source de ma vie, d'où je viens, de ultimement. Ça, c'est ce que j'entends aussi derrière le mot père que Jésus employait pour nommer son lien à Dieu.
Une dernière question peut-être avant que vous puissiez. Il y a une dernière question.
Dernière déjà?
C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent retourner loin. Il va être bientôt 9h30.
Ah bon, d'accord.
Et donc, je ne sais pas, peut-être, sinon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut continuer comme ça aussi encore un petit peu?
Ça dépend de votre soif.
Ça dépend de votre soif. Sinon, pour faire une petite pause, le temps que vous réfléchissiez encore peut-être à un peu de questions. Il y a des livres, donc la source que je cherche, qui sont à la sortie. Est-ce que vous accepteras d'en dédicacer?
Oui, je ferai ça. Ouais.
Donc on pourra rester, pour ceux qui auraient encore un peu de temps, rester quelques temps. Il y a une main qui se lève, voilà.
Oui, juste peut-être pour revenir un peu sur la justice. Est-ce qu'un monde en paix aurait besoin de moins de spiritualité? Un monde en paix aurait besoin de moins de spiritualité?
J'ai pas compris.
Est-ce qu'un monde en paix aurait besoin de moins de spiritualité?
Ah, alors, si je veux répondre à la manière du Talmud, de ce passage que je vous ai mentionné, un monde qui serait en paix vivrait cette spiritualité. Il n'en aurait pas plus besoin, puisqu'on a toujours quand même beaucoup besoin d'œuvrer, de combattre pour que cette paix advienne et demeure. C'est jamais un acquis une fois pour toutes. Donc ce souffle, puisque spiritualité liée à spiritus, qui vient de pneuma et qui veut dire le vent, ce souffle-là, il doit constamment, même si la paix était bien installée, elle ne pourrait jamais l'être de manière statique et définitive. Donc ça serait constamment à l'œuvre, on va dire.
Oui, puis ça, c'est la source comme pour les jours d'abondance, comme le début de mon psaume.
Oui, c'est le psaume 23. Ah oui, tout à fait. Mais ce n'était pas seulement
questions,
ça pouvait aussi être un partage, parce que vous avez peut-être envie de partager quelque chose qui fait écho à toutes ces choses qu'on a dites ce soir. Oui, alors ça va être...
J'ai une question. Vous parlez de justice, et en fait je me demandais quel lien vous faisiez entre l'amour, parce qu'on dit que Dieu est amour, et la justice, et est-ce qu'on peut rendre justice sans amour?
C'est ça. Alors, il n'y a pas un psaume qui dit ça, amour et vérité s'embrassent, et puis les autres, c'était quoi?
Justice et paix.
Justice et paix.
Mais c'est le psaume 85, non?
Oui. C'est des notions qui sont tellement proches l'une de l'autre, enfin, qui se recoupent complètement. C'est-à-dire, comment prétendre qu'on aime quelqu'un quand on est injuste à son égard? Quand on le traite de manière injuste, ce qui veut dire qu'on ne le respecte pas. Alors qu'est-ce que c'est cet amour-là? C'est pas intéressant. C'est pas vraiment de l'amour. Donc quand la Bible, les épîtres en particulier, n'arrêtent pas de dire aimer, c'est très joli, mais aimer en parole et en vérité et en acte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des actes de justice. Et c'est pour ça aussi que tous ces poètes sont déchaînés contre ces pratiques religieuses où on dit « Seigneur, Seigneur » et puis on fait des holocaustes et des sacrifices et des prières et des cantiques, mais qu'on ne respecte pas la justice élémentaire. On prétend aimer Dieu, mais on ne respecte pas la justice élémentaire à l'égard de son prochain. Il y en a même qui ont proposé de faire un moratoire sur le mot amour, tellement c'était la tarte à la crème. Quand on avait dit ça, on avait tout dit. Maurice Bellet, vous connaissez Maurice Bellet, il dit, de toute façon, plus on en parle de l'amour, moins on le vit.
C'est comme de tout, d'ailleurs.
Comme de tout.
Je suis honnête, on est sûr qu'on est honnête. Je voulais juste partager deux choses. Quand vous avez parlé de faire exister Dieu, j'ai tout de suite pensé un magnifique livre de Eric Emmanuel Schmitt que vous avez cité, qui est Oscar et la Dame Rose. Vous faire plaisir à...
On n'entend rien du tout, il faudrait le mettre plus à distance.
Voilà, si vous voulez vous faire plaisir...
Plus loin.
Ou faire plaisir à quelqu'un, offrez Oscar et la Dame Rose d'Eric Emmanuel Schmitt, un petit enfant qui va mourir, qui sait qu'il va mourir. La Dame Rose, elle vient s'occuper de lui, elle l'emmène devant une croix, et puis le petit enfant, il dit, qu'est-ce que tu sais que ça? Mais tu ne vas pas me faire aimer ça, c'est personne ça. Et elle lui a dit, fais-le exister, pour le faire exister, écris-lui. Et Oscar, il écrit des lettres à Dieu tous les jours qui le maintiennent en vie. Voilà. Deuxième chose, j'étais pendant 35 ans dans le bouddhisme, et un jour, on m'a dit, ça serait bien que tu retournes à tes racines. Dans le bouddhisme, on disait ça. Je suis rentrée dans une paroisse à côté de chez moi. J'ai dit, écoutez, j'aurais bien découvert mes racines, mais ne me parlez pas de la messe et de toutes ces conneries. Désolée que je l'ai dit. Et je suis tombée sur un prêtre extrêmement intelligent qui m'a dit, il m'a fait parler et il m'a dit, venez mercredi au groupe Abba. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que j'y serai. Quand je suis arrivée au groupe Abba, l'église était complètement dans le noir. Il n'y avait que des bougies partout. Les jeunes étaient assis par terre. On se serait cru dans un temple bouddhiste. Et en sortant, après 2 heures de chants, de prédications, enfin de prières, de chants, de silence et tout, au bout de 2 heures, je suis sortie. J'ai senti le Christ, Jésus-Christ dans mes entrailles.
Et voilà. Ouais. Merci beaucoup. Il s'appelle le groupe Abba.
Groupe Abba à Saint-Étienne-du-Mont tous les mercredis, c'est magnifique.
Saint-Étienne-du-Mont, donc, le groupe Abba. Donc, grand merci, Lita, pour ce livre, pour ce moment que tu nous as offert donc, ce soir. Donc, il y a à la sortie, vous trouverez des papiers sur l'association Aspire.
Que... Je
peux dire un mot, non ? Oui, oui.
Merci. Donc, c'est l'association pour l'accompagnement spirituel. C'est la carte de visite, ça, que nous avons créée en Suisse après que j'ai mis sur pied cette formation qui était un CAS en accompagnement spirituel à l'université. Puis après, on a lancé cette formation hors de l'université sous l'égide de AASPIR, Association pour l'accompagnement spirituel. Il y a un site, vous pourrez regarder. Donc là, c'est là derrière. Et puis, je vous dis ça parce qu'il y a un certain nombre de Français qui sont venus suivre cette formation en Suisse. Et puis, maintenant, comme elle a été beaucoup demandée en France, nous l'avons démarrée en France. Aussi, à Saint-Antoine-de-l'Abbaye, qui est au sud de Lyon et à 60 km de Grenoble. Et juste pour votre information, parce que maintenant, évidemment, il y a 50 personnes qui suivent cette formation actuellement, mais pour vous donner une idée de ce que c'est comme programme, il reste quelques dépliants qui étaient pour la publicité avant que ça se lance. Et vous trouverez ça au fond, si ça peut vous intéresser. L'idée, je ne sais pas si on va le réaliser, l'idée serait que la prochaine formation se fasse dans la région parisienne, plutôt que dans la Drôme, en tout cas au sud de Lyon, ce qui drainerait plus les gens du Nord, etc. Mais bon, c'est à l'étude, en tout cas, je ne sais pas encore si ça va se faire. Alors, okay. Voyez aussi, c'est marqué à qui c'est destiné, à quoi ça peut servir, etc. Puis dans le site, sur le site, c'est marqué.
On mettra un lien vers ce site. Donc derrière la porte, il y a un petit moment de partage qui a été préparé pour vous et puis que vous puissiez aussi faire dédicacer le livre La Source que je cherche. Donc merci à vous tous de nous avoir rejoints pour ce moment.
Merci.
Merci à vous.
À toi.